Raconte-moi, un balado sur les phénomènes qui ont marqué nos vies. L'émission de télé jeunesse « You Can't Do That on Television » a débuté en 1979. Le principe était simple. Une émission de sketch un peu du genre « Saturday Night Live » mélangée avec une variété du style « Mickey Mouse Club ». Avec un titre comme celui-là, vous aurez compris que l'émission ne se prenait vraiment pas au sérieux. Chaque épisode avait un thème qui était lié à la culture pop et aux tendances du moment. Non, c'est pas l'inspiration pour le balado que vous écoutez en ce moment. La série était produite par CJOH, la chaîne locale de CTV à Ottawa. Elle fut ensuite diffusée sur Nickelodeon aux États-Unis et c'est dans cette série que la fameuse slime verte, marque de commerce de Nickelodeon aujourd'hui, a vu le jour. La structure de l'émission consistait à des sketchs, des vidéoclips, des concours téléphoniques où on pouvait gagner entre autres des albums, vinyles et cassettes, c'était il y a longtemps, ou des radios transistors. Il y avait parfois des performances live de personnalités locales et des vox pop. Ça passait le samedi matin et comparativement à d'autres émissions jeunesse, You Can't Do That on Television n'avait pas la prétention d'être éducative et ça fonctionnait. Parce qu'au top de sa popularité, elle obtenait 33% des parts de marché dans la région d'Ottawa. Ça veut dire qu'une télé sur trois était allumée et écoutait l'émission à tous les samedis matins. C'est pas rien. En plus d'avoir un succès populaire, cette émission jeunesse nous a fait découvrir une vedette qui deviendra planétaire, bien qu'on ne le savait pas à ce moment-là. Alanis Morissette. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. Née à Ottawa le 1er juin 1974, Alanis Nadine Morissette vit dans quelques pays en bas âge car ses parents sont professeurs dans une école militaire et sont appelés à voyager. Elle a une enfance normale, elle prend des cours de piano et de danse à partir de l'âge de 6 ans alors qu'elle est de retour à Ottawa. C'est au début de son secondaire qu'elle fait ses apparitions dans You Can't Do That on Television entre 87 et 89. En 89, elle enregistre aussi deux démos de chansons dans les studios de Toronto, mais ça débouche sur rien du tout. C'est deux ans plus tard qu'Alanis lance son premier album, tout simplement appelé Alanis. C'est un album dance pop qui ne paraîtra qu'au Canada, et malgré qu'elle n'ait que 16 ans, elle participe à l'écriture de toutes les chansons. Vous venez d'entendre « Too Hot », le premier single de l'album Alanis qui atteint le top 20 du palmarès RPM, qui est l'équivalent canadien du Billboard, mais il n'existe plus aujourd'hui. Il y a deux autres extraits qui atteignent aussi le top 40 et Alanis se fait même comparer à Debbie Gibson, une des chanteuses pop les plus en vue des années 90. L'album devient platine, ce qui voulait dire à l'époque qu'elle avait vendu plus de 100 000 copies. Elle se fait aussi remarquer par Vanilla Ice, qui lui demande de faire la première partie de ses spectacles. Saviez-vous que ça, c'était un sampling de la chanson « Under Pressure » de Queen et David Bowie? Bon, on s'égare. En même temps qu'elle faisait la tournée avec Vanilla Ice, Alanis obtient des nominations au prix Junos de 92, le pendant canadien des Grammys. Elle obtient trois nominations, une pour « Most Promising Female Vocalist »,« Single of the Year » et « Best Dance Recording ». Ces deux-là pour « Too Hot ». En 1992, elle lance aussi son deuxième album, Now is the Time, qui était moins dance, composé de plus de ballades que l'album précédent. bien qu'il n'y ait pas de hit de la taille de Too Hot, trois extraits sont dans le top 40 canadien, incluant An Emotion Away, qui est la plus connue. Alanis choisit de mettre le focus plus sur les paroles durant la production de ce deuxième album. Vu que cet album est moins populaire que le précédent et qu'il est seulement certifié or, 50 000 copies, MCA Canada, sa maison de disques, ne renouvelle pas son contrat. En 1993, elle rencontre un nouvel agent qui lui suggère de déménager d'Ottawa à Toronto pour travailler avec de nouveaux collaborateurs. Alors que la création piétine un peu, elle déménage à Los Angeles et rencontre Glenn Ballard, qui changera sa vie à tout jamais. Il croit assez en elle pour la laisser utiliser son studio d'enregistrement et lui proposer d'écrire des chansons avec elle. Je vous parle de Ballard un peu. Au moment de rencontrer Alanis, il est peu connu du public, mais c'est un auteur, compositeur et producteur très en vue dans le milieu artistique. Il a co-écrit et réalisé des hits pour Michael Jackson, Paula Abdul, les Pointer Sisters et Wilson Phillips, entre autres. On voit que c'est pas mal pop. C'est son association avec la Canadienne qui l'a mis sur la map, parce qu'après, il collabore avec Van Halen, Aerosmith, No Doubt, Dave Matthews Band, Shakira et même Lara Fabian. Bon, on revient aux années 90. Celle qui se fait désormais appeler Alanis Morissette et Glenn Ballard co-écrivent et enregistrent l'album Jagged Little Pill et signent un contrat de disque avec Maverick Records, qui à ce moment était assez en vue parce que c'était l'étiquette de disque fondée par Madonna en 1992. C'est d'ailleurs la seule compagnie de disque qui a cru en Morissette. Faut dire que c'était donnant-donnant. Parce que Madonna et Kendall Box, un groupe grunge de Seattle, c'était les deux seuls artistes signés sur l'étiquette. Puis Maverick Records était à la recherche de nouveaux poulains. En juin 1995, le premier album international de Morissette est lancé. Maverick Records espérait vendre assez de copies pour financer l'enregistrement d'un deuxième album. Mais ils ont eu toute une surprise. Quand elle a commencé à travailler avec Ballard, Alanis a voulu expérimenter avec d'autres styles de musique que le dance pop qui avait fait sa renommée canadienne et aussi qui était la spécialité de son producteur. Ces expérimentations donnent naissance à un rock alternatif comme rien d'autre à ce moment-là. Un mélange de la colère du grunge et d'un son pop-rock. Les paroles abordaient de façon crue des thèmes comme la pression sociale, la sexualité et les échecs amoureux. Entendre ça en 2020, ça n'a rien de ben étonnant. C'était à la limite du banal. Sauf qu'en 1995, ce ne l'était pas. Puis c'est plate à dire, parce que la principale raison pour laquelle c'était révolutionnaire, c'est que c'était une jeune femme qui chantait ces paroles-là. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi j'ai choisi de faire un épisode sur Alanis Morissette, c'est parce qu'elle a effectivement marqué la culture pop. C'est elle qui a ouvert la voie aux Shakira, Pink, Michelle Branch, Avril Lavigne, entre autres. À la fin des années 90, début 2000, chaque maison de disques voulait avoir sa Alanis Morissette. Même Katy Perry a crédité l'album Jagged Little Pill comme une de ses influences principales, et a choisi de travailler avec Glenn Ballard à un moment de sa carrière. Elle a même déjà affirmé que cet album-là, c'était l'album féminin le plus parfait jamais enregistré. Jagged Little Pill est devenu double diamant au Canada, ce qui veut dire qu'il a vendu 2 millions de copies. À la fin de 2018, c'est 33 millions de preneurs qui avaient acheté l'album d'Alanis Morissette sur la planète, dont 16 millions aux États-Unis. Pour vous donner un ordre de grandeur, toute la discographie de Taylor Swift, qui a enregistré 7 albums studio, s'est écoulée à 37 millions de copies. Alanis Morissette a détenu plusieurs records avec l'album Jagged Little Pill. Elle a été la plus jeune à avoir un disque diamant aux États-Unis, 10 millions de copies vendues, jusqu'à ce que Britney Spears la détrône avec son Baby One More Time en 1999. En 1996, elle gagne 6 prix Junos et 4 Grammys. Dans les deux cas, elle remporte le prix pour l'album de l'année et la chanson de l'année pour You Ought to Know. En 2003, le magazine Rolling Stone a classé l'album Jagged Little Pill au 327e rang des 500 meilleurs albums de tous les temps. Il est aussi inclus dans la liste des 1001 albums à écouter absolument avant de mourir. Bien sûr qu'après un album aussi marquant, les autres sont souvent oubliés. En 1998, Morissette est artiste invitée sur les chansons du Dave Matthews Band et de Ringo Starr. Elle gagne aussi 2 autres Grammy pour la chanson Uninvited, qui figure sur la trame sonore de City of Angels, un film avec Meg Ryan et Nicolas Cage. Cette année-là, elle lance aussi la suite de Little Pill, Supposed Former Infatuation Junkie. Ouais, oui, je sais, un titre assez weird. Cette suite est considérée comme un échec commercial parce qu'un mois après sa sortie, il n'a vendu que 5,2 millions de copies dans le monde. Alanis lancera 4 autres albums après Junkie qui se vendront assez bien, mais seront toujours considérés décevants vu qu'ils sont systématiquement comparés à la performance de Jagged Little Pill. Parlant de cet album mythique, saviez-vous qu'une comédie musicale basée sur Jagged Little Pill a été lancée en 2019 sur Broadway? Et elle a reçu, somme toute, des critiques assez positives. Surprenant, hein? I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best. Ça, c'est la version Broadway de You Ought to Know. Hey, petit fait cocasse, plus tôt je vous ai parlé du fait que Alanis avait fait la première partie de Vanilla Ice. Puis en 2012, quand il y a un journaliste qui a demandé c'était comment, elle a juste répondu une chose. On lui a dit de ne jamais regarder Vanilla Ice dans les yeux. Elle l'a jamais fait. Bon, vous avez peut-être une envie soudaine d'aller écouter des chansons d'Alanis Morissette, alors je vous laisse avec votre application de musique préférée. Merci d'avoir été là. J'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas de laisser votre évaluation et vos commentaires sur toutes les plateformes où vous trouvez vos balados. J'espère aussi que vous en avez appris plus sur ce phénomène qui a marqué nos vies. Suivez le compte Instagram Raconte-moi balado en un seul mot pour avoir des informations supplémentaires sur le sujet et des indices sur les sujets à venir. À la technique, la recherche, la narration, la production et la réalisation, c'est André Bustros qui vous dit à la prochaine.